Oui, bonjour Jean-Christophe Lagarde.
Bonjour Monsieur Rivière.
Coincé dans les bouchons, ce sont peut-être les prémices du mouvement social de demain dont nous
peut-être
allons parler.
Peut-être effectivement.
Dont nous allons parler dans un instant. C'est possible en effet puisque la grève commence à 18h je crois, donc certains ont peut-être pris des précautions. D'abord l'OTAN, Jean-Christophe Lagarde, parce qu'après une première journée de discussion entre quelques-uns des chefs d'État membres de l'OTAN, le sommet de l'organisation s'ouvre officiellement aujourd'hui. Les tensions sont fortes, les désaccords sont assez importants. Ce sommet doit-il être l'occasion de lancer une profonde réflexion sur les objectifs de l'organisation ?
Oui, c'est infiniment souhaitable et moi je remercie le président Macron d'avoir enfin posé les questions. Je soutiens à 100% son analyse. Aujourd'hui, l'OTAN est en train de vouloir exclusivement regarder la menace potentielle qu'est la Russie. Elle existe à la fois pour les pays de l'Est de l'Europe et très franchement, elle se montre plus menaçante au niveau des espaces aériens, des espaces maritimes, des espaces sous-marins. Et donc, il faut garder un niveau de vigilance. Mais sous la direction de M. Trump, l'OTAN opère un double mouvement. À la fois, les États-Unis s'en retirent progressivement, en tout cas, diminuent l'effort qu'ils font pour garantir la protection entre alliés et dans le même temps refusent de voir les risques tout aussi importants, voire plus importants que ceux de la Russie. Ceux de la Russie peuvent être traités par la diplomatie vraisemblablement, alors que nous avons des risques au sud, au-delà de la Méditerranée, qui sont des risques de terrorisme, de développement des mouvements islamistes. Et cette remise à plat, cette revue stratégique de l'OTAN, elle est indispensable. Or, personne ne veut la faire en dehors de la France. Le président Macron a raison de secouer le cocotier, d'autant plus qu'au sein de l'OTAN, il y a un pays, la Turquie, qui n'est plus, de mon point de vue, réellement notre allié. Il est en permanence en alliance avec des extrémistes islamistes qui font partie des milices dont ils se servent en ce moment pour agresser nos alliés kurdes, ceux qui ont combattu et qui ont vaincu Daesh. Il y a un vrai problème au sein de l'OTAN avec la Turquie et un vrai problème de remise à plat de ce que sont nos objectifs stratégiques. Le président Macron a raison. Enfin, un dirigeant lucide. Ouais.
Et cette question de la Turquie, elle doit être posée franchement, c'est-à-dire de savoir si l'OTAN, si la Turquie a encore sa place aujourd'hui au sein de l'OTAN.
Vous savez, Monsieur Rivière, j'ai posé la question à Manuel Valls lorsqu'il était Premier ministre. Déjà, la Russie jouait un double jeu, la Turquie, pardon, jouait un double jeu avec Daesh, et je lui avais posé la question est-ce qu'ils sont encore réellement nos alliés ? Je pense qu'ils ne sont plus nos alliés. Le président Erdogan a un projet politique. Ce projet politique est d'être le dirigeant des islamistes de l'ensemble de la région du Proche-Orient, et d'ailleurs, il souhaite également utiliser l'idéologie extrême en direction de l'Europe. Et le président Erdogan joue un double jeu. Les États-Unis semblent vouloir rester aveugles. Ils ont trahi les Kurdes qui ont combattu à nos côtés et nous ont permis de l'emporter contre Daesh. Ils ont permis de ce fait la résurgence de Daesh. Il est parfaitement légitime de poser la question, est-ce que la Turquie doit encore faire partie de l'OTAN ? D'autant qu'au moment où on parle de la menace soviétique, de la menace russe, il se trouve que M. Erdogan achète des missiles anti-aériens russes qui pourraient du coup affaiblir les défenses de l'OTAN en connaissant, puisque les Turcs ont des avions américains, en connaissant les systèmes de protection des avions de combat de l'OTAN.
Alors, lors des rencontres préliminaires hier entre chefs d'État, il n'a pas été question que de l'OTAN. Notamment, Donald Trump et Emmanuel Macron ont évoqué aussi les questions commerciales, puisque les États-Unis menacent d'imposer des droits de douane très élevés, qui pourraient aller jusqu'à 100% à un certain nombre de produits français, comme le champagne, par exemple, des fromages, la maroquinerie. Il s'agirait pour les États-Unis d'une riposte à la taxe que la France a imposée aux GAFA. Est-ce que la France a été aventureuse en se lançant seule dans cette taxe sur les géants du numérique ?
Autant, M. Rivière, je vous ai dit que l'analyse de M. Macron était la bonne sur l'OTAN, autant la France a commis une erreur absolue et d'une absurdité que j'ai dénoncée, y compris lors des élections européennes, sur la taxe solitaire contre les GAFA. D'abord parce que cette taxe, ce n'est pas les GAFA qui les payent. Je vous rappelle que les GAFA, et notamment Google, ont un quasi-monopole sur leur secteur d'activité. Et puisqu'on veut leur appliquer une taxe, s'ils la payaient, ce n'est pas eux qui vont la payer, ils vont la répercuter sur leurs clients. Et leurs clients, c'est qui ? Ce sont les commerçants, les artisans, les entreprises qui nous la font payer à nous, citoyens. Donc la taxe GAFA de M. Le Maire, c'est en réalité une taxe sur les citoyens français qui utilisent les services de Google et autres grands géants de ce qu'on appelle les GAFA. Deuxième chose, la bonne logique et d'abord d'attendre de voir s'il y a une législation internationale. Taxer tout seul, c'est s'exposer à des mesures de rétorsion, et là-dessus, les Américains n'ont pas totalement tort. Mais deuxièmement, la bonne logique, ce n'est pas ça. C'est de permettre à chaque citoyen d'avoir le droit de propriété sur les données que nous livrons par nos activités sur Internet, avec lesquelles ces grandes entreprises font des milliards et pour lesquelles ils ne nous rémunèrent pas. Lorsque vous cherchez un billet d'avion, lorsque vous cherchez un vêtement, lorsque vous faites vos courses en ligne, ils collectent vos habitudes, vos envies, vos besoins, ils en font des publicités, ils en font de l'argent, ça vous appartient, mais c'est eux qui le vendent. Mmh. Eh bien, c'est cela la logique que l'Union européenne devrait porter. Malheureusement, la France s'est aventurée dans un système solitaire dont elle risque de faire les frais.
Alors, on a commencé par là, puisque on le disait, vous êtes bloqué dans les embouteillages. Nous sommes à la veille de la journée de mobilisation contre les retraites. Personne ne doute que demain, le mouvement sera extrêmement suivi. La question, ce sera de savoir si la grève se prolongera dans les jours qui suivront. D'abord, Jean-Christophe Lagarde, est-ce que vous pensez qu'on aurait pu éviter d'en arriver là ?
Oh, probablement pas, parce que je pense que la CGT a besoin d'un combat pour essayer de redresser sa situation, et qu'il y a d'abord, dans la dureté syndicale de la CGT, la volonté d'essayer d'apparaître comme un syndicat qui peut, non pas renaître de ses cendres, mais redresser la tête après avoir perdu les élections syndicales. Le fond de l'affaire ou de l'attitude de la CGT est là. Mais on aurait pu l'éviter au moins, parce que le paradoxe de cette affaire, c'est qu'on a demain une grande grève, et vous avez raison de dire que la question, c'est pas demain, c'est ce qui se passe dans les 15 jours, dans les 3 semaines qui suivent, parce que on conteste, un certain nombre de professions contestent une réforme qui pourtant est une réforme juste. Et on la conteste avec des arguments absurdes. Par exemple, j'entends la CGT expliquer que la retraite par points, par nature, elle serait inéquitable, ouais, injuste. Mais c'est une absurdité. Les retraites complémentaires, aujourd'hui, elles sont par points. Et il n'y a pas d'injustice, il n'y a pas d'iniquité. Ce n'est pas le fait de passer par points qui rend l'iniquité. Au contraire, ça permet de mieux tenir compte des carrières accidentées, parce que vous avez des périodes de chômage, parce que vous changez de métier plusieurs fois, vous ne travaillez pas dans le même secteur d'activité, pas avec les mêmes statuts. Ça permet de mieux tenir compte de la pénibilité. Il y a des millions de Français qui travaillent dans différentes professions au cours de leur vie. À certains moments, ils ont des métiers pénibles, à d'autres, ils ont des métiers moins pénibles. On pourrait en tenir compte, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et ça permet de garantir l'égalité face aux retraites. Il n'est pas normal qu'un conducteur de bus de la RATP puisse avoir une retraite plus favorable et plus tôt que quelqu'un qui conduit un bus à Bordeaux. Ils ont la même pénibilité, le même métier, et donc ils devraient avoir une égalité. Simplement, le paradoxe de cette affaire, c'est qu'on a aujourd'hui une grande grève et un grand conflit social qui se prépare, alors que le gouvernement n'a pas encore mis son texte sur la table.
L'un des points d'inquiétude, Jean-Christophe Lagarde, l'un des points d'inquiétude, il y a les régimes spéciaux, évidemment, mais il y a aussi la question de l'âge du départ à la retraite, avec une retraite complète, à taux plein. Et vous avez une solution, enfin, vous proposez quelque chose, vous dites, on pourrait par exemple travailler 37 heures par semaine au lieu de 35, et vous dites que ça permettrait de partir à 62 ans avec une retraite complète.
Alors, Monsieur Rivière, il faut bien dissocier les choses. La retraite par points, elle ne touche en rien l'âge de la retraite. Et d'ailleurs, le président Macron, qui avait cru qu'il n'y avait pas de problème d'équilibre financier, disait on ne touchera pas à l'âge de départ en retraite, ou à la durée de cotisation. Mais le Conseil d'orientation des retraites vient de nous dire le régime est déficitaire d'environ 11 milliards tous les ans à partir de 2025. On ne peut pas laisser une telle facture à nos enfants pour refuser d'assumer nos propres retraites. Il n'y a donc que trois solutions, mais ça n'a rien à voir avec la retraite par points, mais il faudra traiter ce sujet. Il y a trois solutions. Soit on cotise plus, mais les Français n'en peuvent plus les impôts, soit on paye moins cher les pensions, mais les retraités sont déjà très nombreux à avoir du mal à boucler les fins de mois, soit on accepte de travailler plus longtemps. D'habitude, on dit plus longtemps au bout de la vie professionnelle. Oui. Moi, je propose qu'au long de la vie professionnelle, pour pouvoir continuer à partir à 62 ans, on travaille 37 heures au lieu de 35, ce qui permettrait d'équilibrer le régime des retraites et de partir à 62 ans toujours.
37 heures payées 35.
Oui, non, pas tout à fait. 37 heures cotisées par l'employeur, ce qui équilibre, et au lieu de vous verser le salaire, on vous met ça sur un compte en capital, ce qui veut dire que pour un salaire médian de 1 700 euros, à la fin de votre vie professionnelle, on vous verse un capital d'environ 50 000 euros. Donc ça permet aussi aux jeunes générations qui pensent qu'aujourd'hui elles cotisent à vide et qu'elles n'auront rien, de se garantir d'avoir, elles aussi, cotisé pour elles-mêmes.
Merci Jean-Christophe Lagarde, bonne journée.
Merci à vous, M. Rivière.